À tous les élèves, je vous demande une minute.
Mesdames et messieurs les recteurs,
chers agents,
chères lycéennes, chers lycéens,
je veux que on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale.
Soyez heureux en classe, a souhaité le ministre de l'Éducation.
Travaillez bien.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mathieu Bosque.
Bonjour Laurence.
Alors Mathieu, tu es aiguilleur du ciel et tu es aussi président de Picardie Debout. Et tu es surtout, et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, l'auteur d'un livre qui s'appelle « À la recherche des profs perdus, enquête » qui vient de sortir aux éditions de l'Aube. Alors, première question Mathieu, comment un aiguilleur du ciel, président de Picardie Debout, en vient-il à avoir l'idée d'écrire un livre sur l'école ?
L'idée, elle me vient de deux choses, c'est un constat et une intuition. Le constat, en 2017, alors que la gauche se relance, que Mélenchon fait son premier gros score à la présidentielle, moi à l'époque je suis un simple conseiller politique, et donc j'écoute ce que les gens pensent d'une idée, d'une proposition. Et dans ces gens que j'écoute, il y a des profs. Et donc en 2017, alors que la gauche se relance, on me dit que dans la salle des profs, ça vote plus forcément à gauche, ça s'intéresse plus trop à la politique. Et donc ça vient faire une espèce de dissonance cognitive en moi, puisque quand on est de gauche, surtout il y a 10 ans, on se dit que la gauche et les profs, c'est hasta la muerte. Mmh. Et ben non. À ce moment-là, je capte que la gauche a perdu le monopole des profs. Donc ça, c'est une matière intéressante, on va dire. Et derrière, en cherchant un petit peu, en écrivant des notes pour essayer de trouver des lignes pour apporter une solution à cette perte importante d'électorat, j'ai une intuition qui est que on peut réussir à remobiliser les profs et la jeunesse, qui est le vivier, en fait, de l'éducation nationale, pour la jeunesse qui a les futurs profs, autour d'une notion assez simple qui fait vibrer la jeunesse, qui est l'écologie et le vivant. Et donc, comment on passe de la vision à la ligne, aux propositions ? Ben, il a fallu en passer par une enquête, par se poser, écrire, rencontrer les vrais gens du métier, rencontrer aussi ceux qui ont des idées sur le sujet, et essayer de piocher chez les uns, chez les autres, de sentir ce qui fait vibrer, ce qui fait écho, pour raccrocher la dynamique politique à d'autres choses. Parce que ça ne suffit pas, en fait. L'énergie politique, elle ne suffit pas pour régler des problèmes.
Oui, est-ce que déjà, en 2017, à l'époque, tu entends parler d'un vote d'extrême droite dans les salles des profs, comme aujourd'hui, on a des chiffres qui sont tout à fait glaçants.
Bon, à l'époque, on ne l'entend pas vraiment. Enfin, mes capteurs ne sont pas assez sensibles pour capter ça, puisque, en gros, il y a 15 ans, le vote RN chez les profs, c'était 2%. Mmh. La gauche faisait 60% et le vote RN, c'était 2%. Et le Rassemblement national opère un changement de discours, fait un virage stratégique. C'est déjà sous Jean-Marie Le Pen. Le Pen pensait historiquement que les fonctionnaires, c'était la lie de l'humanité. Voilà, ça ne les intéressait pas, c'était des gauchistes. Et donc, il fait un virage stratégique en disant « Mais non, en fait, fonctionnaires, vous êtes aussi les victimes de ce système. Et donc, nous vous défendons. » Et Marine Le Pen, elle poursuit ce virage en s'intéressant particulièrement aux profs. Et elle leur propose une vision qui est basée sur de l'autorité, du roman national bien trafiqué.
Et déjà bien trafiqué le roman national, par essence.
Voilà. Et de la répétition. C'est les fameux, les enfants n'apprennent plus rien, les profs n'ont plus le temps, ne font plus rien, etc. Et donc du coup, il faut toujours en faire un peu plus, toujours plus de répétition. Et ça prend.
Le niveau des élèves français s'est effondré depuis 30 ans. Par un égalitarisme mal compris qui a créé la machine à échec du collège unique, qui a enlevé au baccalauréat son statut de diplôme d'excellence garantissant un socle de compétences, l'école est devenue une machine à reproduire les inégalités sociales. Par la dégradation des contenus et des enseignements, elle s'est également rendue incapable de donner aux élèves issus de l'immigration le goût de l'assimilation et le sens de l'effort. par la logique purement comptable, elle a réussi l'exploit de transformer le noble métier de professeur en sacerdoce sous-payé. Par la lâcheté institutionnelle généralisée, la désormais célèbre culture du pas de vague, elle est enfin devenue un lieu où les violences subies par les professeurs ne sont traitées que par la lâcheté hiérarchique. Les exemples de Samuel Paty ou de Didier Le Maire nous l'ont montré. Présidente de la République, le rétablissement de la noblesse, de l'excellence et de l'autorité de l'institution scolaire sera une priorité absolue.
Ça prend parce qu'on passe de 65-2 à un 40-25. Aujourd'hui, voilà, la gauche, elle fait à peu près...
On dit à peu près 25%, ouais.
Voilà, c'est ça. En gros, 40-45%. Mmh. Et le RN, il fait 20 ou 25% selon
beaucoup,
les élections.
Mais bon.
Oui, c'est beaucoup. Mmh. Mais ce qu'il faut noter, c'est que... c'est un bastion dans la société. C'est que l'école, ce n'est pas une île. Dans des départements où on va avoir du RN qui fait 50% au premier tour, eh ben dans les salles de profs, on ne fait pas 50%, loin de là. Et aujourd'hui, quand on est électeur du Rassemblement National, à la pause, on ne monte pas sur la table pour crier Marine Le Pen. Et donc ça, c'est un fait marquant. C'est que dans une société qui bascule, dans des départements qui basculent pour le Rassemblement National, eh ben la salle des profs, ça reste un bastion. Le RN, il est encore loin d'avoir gagné la bataille de la salle des profs. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'école, elle a été construite sur une histoire et sur une philosophie qui sont progressistes, qui sont tolérantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de clés pour trouver des solutions à nos problèmes qui sont dans cette architecture-là.
Alors, tu as fait préfacer ton livre par... deux personnes qui, alors, vraiment n'ont pas l'habitude de dialoguer, c'est même rien de le dire, parce qu'ils ont plutôt passé leur temps à se tirer dans les pattes. La première, c'est Philippe Mérieux, qu'on connaît bien ici, qui est un peu le parrain de cette émission, c'est lui qui l'a inauguré. Le second, c'est Alain Bentolila. Alors, dans sa préface, Philippe Mérieux dit quelque chose de très juste, il dit que ce qu'il y a de très original dans ce livre, c'est la démarche. Voilà, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la démarche d'enquête. Comment tu procèdes, voilà, concrètement, Mathieu Bosque part en quête d'une question, retrouver les profs perdus et les réconcilier avec la gauche, comment tu fais ?
Moi, j'aborde le sujet scolaire avec mon angle politique. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en politique ? On cherche des dynamiques, on cherche des angles rassembleurs, on cherche à récupérer des bouts d'électorat qui sont désunis et à trouver une ligne, parfois c'est des sentiments, c'est très basique, mais quelque chose où voilà, on a des pans qui sont séparés, différents, et où ils se disent tous « Ah ben oui, ça c'est pas bête, ça c'est du bon sens ». Donc j'aborde le problème scolaire comme ça. Et donc je cherche comment apporter une solution au problème qui ne nous rentre pas dans le dialogue de sourds, parce que beaucoup de sujets dans l'éducation nationale, au final, c'est traité avec un...
Bah, en l'occurrence, entre Philippe Mérieux et Bentolila, c'est un dialogue de sourds.
Bah, voilà, on peut se dire ça, on peut se dire, Mérieux, il incarne l'éducation, l'ouverture d'esprit...
La pédagogie.
La pédagogie, et Bentolila, il incarne l'autorité.
L'instruction.
Voilà. Mmh. Et bien, si on prend le débat comme ça, c'est un dialogue de sourds, deux France qui ne se parlent pas, et on s'arrête là. Autant pas s'engueuler, en fait, autant pas se parler. Et donc, moi, ma démarche, elle est, c'est pas à l'inverse, c'est décalé. Mmh. C'est de dire, bon, oui, on va avoir un problème sur la lecture, mais comment on peut trouver une solution pour améliorer l'apprentissage de la lecture, mais qui va parler à la fois à Sylvie, qui travaille dans le social, dans le Calvados, et à Jean-Michel, président de... une société pharmaceutique dans un centre-ville.
Alors, il y a un truc qui est aussi une autre originalité, justement, de ton livre. Tu as alterné à la fois du terrain, donc des vraies rencontres avec des acteurs, des actrices, ça, on va en parler, des gens qui te racontent vraiment la réalité du métier, et partout en France, hein, pas simplement à Paris. Et puis, tu rencontres, en effet, des spécialistes de l'école, dont j'ai aussi fait partie, pour être totalement transparente. Et tu essaies, en fait, de tisser tout ça ensemble.
Oui, il y a même un troisième point que je rajoute, c'est les lieux de pouvoir. Mm. C'est que j'ai aussi été voir dans les lieux de pouvoir ce que comment les décideurs se représentaient le sujet.
Mm. Alors, il y a aussi une grande partie du livre qui est consacrée à l'histoire. Vraisemblablement, tu t'es plongé, enfin pas vraisemblablement, c'est sûr, tu t'es plongé dans l'histoire de l'école. Tu as compilé un certain nombre d'ouvrages historiques sur l'école et tu l'as fait avec une ligne assez originale, je dois avouer, moi, en tant qu'historienne de l'école, qui est de te demander, en fait, ce qui a pu rendre possible le recrutement de milliers d'enseignants au moment de l'institutionnalisation de l'école de la République, donc Jules Ferry. Tu retraces ça avec vraiment cette ligne-là, c'est-à-dire à tel moment de l'histoire, on en est là, personne ne veut être prof ou presque, ou c'est difficile, toc, 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 et tu avances jusqu'à l'école de Ferry, et on en parlera après, c'est ce qui va te permettre après de faire des hypothèses sur comment redonner goût au métier. Peut-être qu'on pourrait faire cette petite itinérance-là historique, quels sont les grands moments comme ça qui ont mené à cet engouement pour l'école de Ferry?
Bon, alors, on démarre à la Révolution.
Quand même, avant la Révolution, il y a des écoles.
Oui, avant la Révolution, voilà. Il y a des écoles. C'est des petites écoles. Mm. Elles sont tenues par le clergé. Mm. On apprend principalement à lire, mais avec la Bible, un peu à écrire, enfin parfois. Et c'est assez disparate sur le territoire.
Mm. Et puis, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est souvent des écoles spontanées. Il n'y a aucune, administration commune. Elles sont, en effet, aux mains du clergé. La plupart du temps, pas toujours, hein, parce que des fois, on a un laïc qui arrive et puis qui se dit « Tiens, ça me plairait, moi, de donner des cours. » En tout cas, voilà, c'est un peu de briques et de brocs, en effet, jusqu'à la Révolution.
Et à la Révolution, on pose une ambition. Les grands révolutionnaires, ils s'intéressent vraiment beaucoup au sujet scolaire. Et c'est eux un peu qui inventent l'éducation nationale. Ils veulent l'égalité sur tout le territoire. Ils veulent des programmes. Ils veulent que l'éducation serve à tirer les gens vers le haut. Voilà. Donc, ils posent une ambition. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de guerres. Ils construisent sur un peu presque le... Enfin, pas le vide, parce qu'il y avait déjà quelque chose, mais il n'y a pas d'administration, donc ils partent d'une feuille blanche. Et cette ambition, elle crée aussitôt un problème qui est que si on veut donner une éducation égalitaire à tous les enfants de France, eh bien, il va falloir des profs. Et des profs bien formés. Et ça, c'est pas évident.
Et cette ambition, donc, c'est... On va quand même le citer, le Pelletier-Saint-Fargeau, qui est le robespierriste qui va plaider pour une éducation nationale. Le mot, alors moi j'aime bien insister là-dessus, hein, le mot éducation nationale, c'est quand même cette idée très forte que l'éducation des enfants est une responsabilité de la puissance publique. Mmh. Et ça, alors je ne vais pas dire que c'est typiquement français, mais quand même... ça va former un cordon ombilical entre la nation, la République et l'école. Et ce qui fait aussi d'ailleurs que ça rend le sujet extrêmement sensible en France, quoi, c'est que toucher à l'école, c'est pas que toucher à l'école, quoi, c'est toucher à tout ça. La République, la nation, l'idée de la responsabilité de la puissance publique. On régresse un peu après la Révolution, 19e siècle, en tout cas dans le premier 19e siècle.
Oui, oui. De toute façon, l'avancée de l'école, c'est comme ça. Hein. C'est des hauts, des bas, des en avant, des pas de côté. Voilà, ça va être que ça. Par contre, il y a une constante. C'est que, eh bien, on cherche les profs. Mmh. Voilà. Et c'est le fil rouge dont tu parlais. Il y a de l'autorité qui est essayée. Bon, ben, ça avance pas. Il y a un temps qui fait quand même un progrès. C'est les libéraux et plutôt la droite qui fait un grand pas en avant à l'époque de la Restauration.
Donc. Après, les libéraux sous la Restauration sont-ils de droite? Grande question. Hein. Moi, je ne serais pas aussi affirmative, mais bon.
Donc, il y a des choses qui se passent avant, mais il y a un grand temps qui se passe sous la responsabilité d'un ministre qui s'appelle Guizot.
Mmh. Enrichissez-vous, c'est la formule de Guizot.
Voilà, et enrichissez-vous, c'est dans un but aussi politique, puisque Guizot, il disait ça... dans le but que tout le monde puisse accéder au vote. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir voter.
Suffrage censitaire, ouais.
Alors, Guizot, il avait une conception de tous les sujets, et donc en particulier de l'éducation, parce que ça fait partie des ministres de l'éducation qui étaient forts. Le gouvernement sans Guizot, il tombait. Voilà, Guizot, il avait un groupe un petit peu comme le MoDem de Bayrou aujourd'hui, ou le PS, qui faisait que s'il ne votait pas avec le gouvernement tombait. Donc, Guizot prend le ministère de l'Éducation nationale, mais il a du pouvoir.
De l'instruction publique.
De l'instruction publique, à l'époque, oui, c'est vrai.
On est en 1833, hein, pour situer les choses. Ouais.
Et en fait, Guizot, il va aller convaincre le roi qu'il faut lui donner des moyens pour pouvoir faire quelque chose à l'instruction publique, parce que l'éducation va servir à faire comprendre aux petites gens que la monarchie, c'est le meilleur des régimes. Qu'ils n'ont rien à gagner à se lancer dans des révolutions, des révoltes, des émeutes, etc. Et que c'est en se cultivant qu'ils vont comprendre par eux-mêmes que, eh bien, ils ont tout intérêt à défendre la monarchie comme régime. Et donc le roi dit, bah, intéressante votre théorie, monsieur Guizot, et il lui permet d'avoir des budgets pour pouvoir construire ce qui va venir jusqu'à nous aujourd'hui, qui est une administration, où on va avoir une volonté d'avoir une école par commune, des inspecteurs qui vont venir regarder ce que font les profs, voilà, et une volonté d'uniformisation par une structure organisée qui est l'administration académique.
Et on arrive donc, on va y aller rapidos, de toute façon les gens liront ton livre pour avoir la suite. Donc on arrive à l'école de Jules Ferry, où là en effet, il y a une sorte d'émulation collective autour d'un projet, qui est donc le projet, on peut dire républicain, mais plutôt projet national ou républicain, parce qu'en fait il y a vraiment aussi le projet de faire nation, le projet de souder une nation. Et ça provoque des engouements pour le métier.
Mais pour comprendre ce qui se passe, en fait, il faut s'arrêter un petit peu avant l'époque des Républicains. Il faut commencer vers les années 1860. Donc on est sous le Second Empire, mais c'est la fin du Second Empire. Et les gens, ils en ont un peu marre. Et donc, on voit dans la fin du Second Empire plein de signaux qui disent on a envie d'autre chose. Dans la jeunesse, on a les avocats qui se rebellent, on a les peintres qui se rebellent. Aujourd'hui, on les célèbre comme des stars. Mais tous les impressionnistes, à l'époque, ils n'avaient pas le droit de peindre ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient vendre leurs tableaux, il fallait faire des nus antiques. Et sinon, eh bien, ils n'avaient pas accès au marché de l'art. Eh bien, ils se rebellent, ils ont envie de peindre la France, leur France à eux. Ils ont envie de peindre des travailleurs, ils aiment bien la République, ils ont envie de peindre des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc du coup, ils font leur propre salon. Il y a plein d'autres choses. Il y a Jules Verne, enfin, il y a les auteurs qui marchent à l'époque. Ils ont des personnages qui sont des grands républicains.
Et donc, une jeunesse révoltée, c'est ça que tu veux dire?
Ben ouais, une jeunesse qui vibre pour la République. Et les républicains, ils captent ça. Ils captent qu'il se passe quelque chose dans la jeunesse. Et donc, ils ne vont pas dire au peuple de France que c'est grâce à l'éducation nationale qu'on va sauver la République. Non, ils vont dire au peuple de France... Si vous aimez la République, si vous voulez aider la République, eh ben la meilleure façon de le faire, c'est de rentrer dans l'éducation nationale. Il rajoute une vocation. En fait, pendant tout le 19e siècle, être prof, c'était avoir la vocation de transmettre des savoirs. Eh ben eux, ils disent, on garde la vocation de transmettre des savoirs, mais on va rajouter une deuxième, qui est instituer la République, donc donner aux enfants le minimum de connaissances politiques pour comprendre par eux-mêmes que la République, c'est le meilleur des régimes. Ils refont le coup de Guizot, mais à destination du peuple. Et ça marche. On avait 60 000 profs, ben eux, ils font passer ça à 100 000 profs. Et c'est grâce à ça, grâce à ces 40 000 recrutements, dont beaucoup de femmes, qu'on va pouvoir avoir une éducation nationale sur tout le territoire de France.
Tu parlais de vocation, etc., de mission, qui va bien au-delà de la question de la transmission des savoirs. Une des choses les plus intéressantes dans ce bouquin, c'est justement quand tu relates les rencontres que tu fais avec des profs, des hommes, des femmes. Qu'est-ce que tu as ressenti justement? Qu'en est-il de cette mission, de ces vocations? Alors tous les témoignages sont très différents, mais voilà, est-ce que tu peux butiner un petit peu pour essayer de nous faire un petit tableau de ce qui est ressorti?
Quand on s'intéresse à l'école, c'est assez facile de tomber dans le catastrophisme. Parce que forcément, j'ai été voir les endroits où ça marche pas. J'ai été voir dans les quartiers populaires où on a des 50% de taux d'échec au brevet, où il y a les jobs d'été, les fameux jobs d'été de l'éducation nationale.
Peut-être expliquer, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est.
Alors, c'est pas uniforme sur tout le territoire, mais il y a deux académies, celle de Créteil et de Versailles, qui correspondent en gros au département de banlieue parisienne, où tous les ans, au primaire, il manque 1000 prof pour voir tous les postes. Enfin, je dis 1000, ça c'est quand j'ai commencé, maintenant on est à 3-4 000.
Ouais.
Donc tous les ans, il y a 4000 profs qui manquent. Et donc pour boucher les trous, à Pôle emploi, on vous propose, on vous dit, bah, toi ça marche pas parce que t'es prof, mais le caméraman qui nous filme, s'il se retrouvait à Pôle emploi, eh ben, on lui dirait, mais monsieur, vous avez un CV exceptionnel pour l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas comment il se sentirait face à la classe de CE2 à Vitry-sur-Seine, mais 14 jours après qu'on lui ait dit ça, bah, il peut se retrouver devant la classe de CE2.
Après les speed dating pour rencontrer l'amour, les job dating pour recruter les professeurs. Et il y avait foule la semaine dernière devant ce lycée de Palaiseau. De nombreux candidats, CV en poche, prêts à épouser une carrière dans l'enseignement. Des profils différents, jeunes, moins jeunes, une deuxième vie pour certains.
Je suis en pré-retraite et donc je voudrais faire partager mon expérience de la vente parce que j'ai toujours travaillé dans la vente pendant 30 ans.
Vous venez pour quel poste aujourd'hui?
Professeur de mathématiques en lycée ou collège, plutôt lycée.
Est-ce que vous aviez déjà travaillé dans l'éducation nationale?
Absolument pas.
Quel est votre parcours?
Alors, j'ai fait 30 ans d'armée et ensuite 7 ans comme directeur de foyer pour personnes handicapées.
Ces candidats ont rendez-vous avec la plus grosse académie de France, Versailles, qui manque cruellement de professeurs. 1300 postes d'enseignants sont à pourvoir pour la rentrée 2022. Pour postuler, il faut minimum un bac plus 3. Et c'est parti pour 30 minutes d'entretien que nous ne pourrons pas filmer.
Mise en situation assez rapide. Voilà, vous avez 4 élèves qui ont des difficultés par rapport aux autres. Les autres sortent en cours de, en récréation. Que faites-vous? Comment vous organisez-vous? Vous restez avec les 4. Comment vous emmenez les 20 autres en récréation? Donc il y a du bon sens, de l'organisation.
Et la méthode semble séduire ce membre du jury, inspecteur de l'éducation nationale.
Les gens qui viennent avec une nouvelle énergie dont on a besoin dans l'enseignement. Ils n'ont pas une représentation un peu ancienne de l'enseignement, du professeur qui va être derrière son bureau et qui va faire cours. Non, ils viennent vraiment avec j'ai envie de transmettre, j'ai envie de. Ils partent de leur expérience personnelle, j'ai des enfants, j'aimerais bien voir ça à l'école.
J'ai essayé de faire qu'on puisse s'identifier aux gens avec qui je parle. Mmh. Se dire, Cassa, elle travaille dans la logistique, elle se retrouve au chômage, et 15 jours après, elle est prof devant la classe de CE2.
Mmh. Et elle se donne à fond.
Alors voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a énormément d'endroits où le système, il ne peut pas marcher. Enfin, vu comment c'est organisé, ça ne peut pas marcher. Et en fait, les gens y arrivent quand même. Les gens à l'éducation nationale, c'est quand même, moi, ce que je trouve très fort et ce qui m'a fait vibrer moi-même quand j'ai fait les rencontres, c'est que les gens, ils y croient, ils se débrouillent, ils se battent, ils trouvent des solutions... Eux-mêmes, par eux-mêmes, le système tient en grande partie sur du bénévolat. Donc ça, c'est un peu la ligne du livre, de dire, en fait, la solution, on l'a sous les yeux. On a des gens qui y arrivent quand même. Et donc, ce qu'on fait tenir sur du bénévolat, si on avait la volonté politique de le systématiser, tous les profs qui organisent bénévolement des sorties scolaires, ça a une plus-value énorme sur les apprentissages de base dans les petites classes. Si on systématisait ça en payant les heures supplémentaires, tout travail mérite salaire. Mais si on payait les heures supplémentaires, on ferait de notre mieux. La conclusion de toutes ces rencontres, ce que j'en retire, c'est qu'il ne faut pas demander à l'école de régler tous les problèmes. C'est un peu le tort qu'on a de vouloir toujours lui dire « Ah, mais faudrait que ça soit enseigné à l'école. » Par contre, ce qu'on peut demander à l'école française aujourd'hui, c'est de faire de son mieux, parce qu'elle a déjà fait beaucoup mieux que ce qu'elle fait actuellement.
Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que dire ça, c'est quand même une manière aussi de, d'accepter l'existant, tu vois, de dire, mais écoutez, tout le monde est capable de faire très bien dans cette institution, même si l'institution dysfonctionne, donc allez-y. Alors qu'en réalité, je ne crois pas que ça suffise. Je crois qu'il y a quand même besoin d'une refonte, de moyens. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais il y a besoin de vraies réformes, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça à tenir sur les épaules de ce que tu appelles le bénévolat. Il y a quand même aussi beaucoup de collègues qui craquent.
Bah oui, mais c'est exactement ce que je dis, mais en le prenant avec un angle différent. C'est-à-dire que si on rentre en disant « il faut plus de moyens, juste ça », eh bien en face, ils nous répondent « oui, mais il n'y a pas de moyens ». Et donc du coup, on est dans le dialogue de sourds. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est de rentrer en disant « on peut faire de notre mieux ». Et donc, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a envie que l'école fasse de son mieux? Bon, ben, si on est tous d'accord pour dire ça, maintenant, on regarde comment on fait. Et quand on regarde comment on fait, évidemment qu'il faut mettre de l'argent. Les heures supplémentaires pour organiser les sorties scolaires, si tout travail mérite salaire, Et si on est tous d'accord pour dire ça, ben, il faut les payer. Donc, il faut mettre des sous. Voilà, c'est une façon de le prendre qui est un petit peu différente et qui essaye de mettre des gens qui ne se parlent pas, des gens qui sont dans un dialogue de sourds, bah, d'accord sur des constats, et après, il en découle des choses qui font que bah, toi, tu seras d'accord aussi pour dire qu'il faut payer les heures supplémentaires dans le primaire.
De toutes tes recherches, ton enquête, tes rencontres, tu tires quelques pistes qui sont des propositions, peut-être pas de réforme, enfin quoi, qu'il y a quand même des propositions qui sont assez ambitieuses. On va en prendre quelques-unes. Alors, il y en a une qui commence de façon très élégante dans ce livre, le moment où tu décris un match de boxe. Tu es un peu boxeur, on sent que tu connais un peu. Mais là, c'est pas toi, ou en tout cas, peut-être que c'est toi, mais tu le dis pas, c'est un dénommé Malo.
Non, ils sont meilleurs que moi, ceux qui boxent, là.
En tout cas, tu nous décris exactement ce qui se passe dans sa tête, les compétences qu'il est obligé de mobiliser, qui sont des compétences à la fois physiques, sportive, mais aussi des compétences intellectuelles, stratégiques. Et de ces pages-là, tu en déduis le fait que nous sommes dans une école qui a réussi à séparer, enfin réussi, c'est pas tellement une réussite, mais en tout cas a décidé de séparer le corps et l'esprit, pour le dire assez rapidement, et même d'ailleurs à les hiérarchiser.
Exactement.
Puisque voilà, les savoirs intellectuels sont beaucoup plus importants que les autres savoirs. Et toi, tu donnes une piste qui est justement de redonner de la dignité aux savoirs autres qu'intellectuels.
Plus que l'école, c'est même la société qui a fait cette hiérarchie. Quand on dit un avocat, on ne se demande pas si l'avocat il est intelligent. Mmh. L'avocat, il est intelligent. Il a bien réussi, mais voilà, l'avocat, le médecin, le chirurgien, il est forcément intelligent. Il a droit aux palmes de la matière grise. L'horloger, le garagiste, l'AVS, bah, là, à la limite, on veut bien reconnaître que oui, ils ont le goût de l'effort. Parce que travailler sur un chantier en hiver, oui, il y a des valeurs. Par contre, l'intelligence, c'est pas gagné d'avance. Ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. Mais voilà, notre société a fait ça. Et l'école, à l'image de... Enfin, l'école. Le secondaire en particulier.
Même le primaire, tu sais. Non, mais c'est polyvalent au primaire, mais la hiérarchie, elle est déjà là. Elle se fait déjà au primaire.
Oui, la hiérarchie, elle est partout. Mmh. Mais en fait, le primaire, il a cet héritage-là de la fin du 19e, où, à l'époque, les artisans étaient reconnus comme étant intelligents. Et donc, il y a cette volonté... Et tu le vois dans les textes de loi ou même les discours des Républicains et de Buisson, il y a cette volonté d'aller voir la chose, d'aller voir le réel. Mmh.
Les
leçons de choses, exactement. Mmh. Il disait qu'il fallait que l'instituteur, il amène un faisan empaillé en classe pour que les gamins, ils voient par eux-mêmes les choses.
Mmh. Oui, donc, c'était derrière des vitrines.
Exactement. Mmh. Donc, il y a cette volonté qui a marqué le primaire et dont on hérite encore aujourd'hui. Mmh. Bon, le secondaire, lui, il vient de l'enseignement général. Et quand il a été figé par les députés dans les années 70, il y a une volonté de ne surtout pas abaisser le niveau de l'élite. Mmh. Et donc, le niveau de l'élite, il est fixé par le bac général. Et au bac général, on avait du latin, de la philosophie, des mathématiques, des matières très abstraites. Et donc ça marque énormément le collège, qui fait que ben, la semaine dernière, je parlais avec un horloger de Strasbourg qui me disait que pour lui, le collège, ça avait été des années horribles. Mmh. Alors que vous lui donnez une montre à l'oreille, il est capable de vous dire « Ah, mais c'est telle pièce qui déconne mmh. ». Bon voilà, il se représente tellement bien la mécanique des pièces qui s'entrelacent et le fonctionnement de l'objet qu'il est capable à l'oreille de diagnostiquer le problème. Quelle intelligence. Moi, je connais un jeune homme qui s'appelle Lucas. Il a 25 ans, il n'a pas eu le brevet. J'ai donné quelques cours à l'époque, sans succès scolaire. Bon, 25 ans, il construit sa maison tout seul de A à Z, tous les corps de métier. Quelle intelligence. Ben voilà, aujourd'hui au collège... Sa moyenne, c'est 4. Et il ne dépasse pas le 6 dans toutes les matières. Et donc, une des propositions du livre, c'est de dire qu'on doit mettre une matière qui se concentre sur l'intelligence de la main, donc les savoirs pratiques. On se fixe, alors pas...
L'intelligence de la main qui est une formule de Jean-Pierre Raffarin, donc bah oui. Homme de droite, je précise.
C'est le jeu du judo, d'essayer de prendre des formules des autres pour pouvoir rassembler large. Et donc, qu'on se fixe des objectifs en se disant, voilà, quels hommes on veut faire, quelles femmes on veut faire. On veut faire des gens qui soient autonomes, plus complets. Si on veut vraiment faire une société écologique, est-ce que ça a du sens de se dire en 2027, il faut que j'appelle un plombier pour venir me déboucher mon évier et que le plombier va faire 50 km pour venir me déboucher mon évier? Donc, est-ce qu'on n'a pas un intérêt à ce que tous les garçons et toutes les filles, ils aient des connaissances pratiques en plomberie pour savoir faire une évacuation PVC? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que, dans une société où on veut que les hommes prennent leur part aussi au travail domestique, eh bien, tout le monde sache s'occuper d'un nourrisson? Et donc, pour faire ça, poser une matière qui se fixe ces objectifs-là de savoir-faire, et pas de savoir, de savoir-faire, et qui, du coup, ben, permettent aussi de donner des vins au fils et à la fille du plombier.
Alors, des vins, pas du vin, hein, je précise.
Oui, des vins sur vin.
Des vins sur vin. Alors, après, voilà, on va t'objecter tout de suite. Ça a été fait. C'est l'EMT dans les années 80, c'est même à la limite ce qui a dicté la mise en place de la technologie. J'ai envie de dire, c'est pas juste une question d'ajouter une matière, c'est aussi une question de bataille culturelle autour justement de cette hiérarchie des savoirs, y compris dans la société. L'un peut pas aller sans l'autre, sinon cette matière sera toujours considérée comme la dernière roue du carrosse, quoi.
Oui, c'est ça, il y a besoin de reconnaissance symbolique sur cette matière. Et c'est pour ça que si c'est une matière qui est en place, je pense qu'il faut qu'elle ait un volume d'horaire qui soit équivalent aux grandes matières que sont les maths et le français, et que ça soit examiné au brevet aussi.
Et que ce soit porté politiquement et professionnellement par le corps des enseignants. C'est la deuxième mesure, enfin mesure, c'est la deuxième, comment dire, grande proposition dont j'aimerais que tu nous parles. Quel est le souffle du 21e siècle que l'on pourrait donner justement auprès de la jeunesse pour lui redonner envie d'entrer dans l'éducation nationale?
Pour moi, il y a deux grands chemins qui sont possibles. Soit le chemin où on va défendre à tout prix le niveau des meilleurs. C'est quand on entend parler de groupes de niveau, de tout ça, c'est prendre cette route-là. Et il y a un deuxième chemin où on va chercher à relancer une dynamique pour que on ait à nouveau des profs, des jeunes qui soient motivés, compétents, qui rentrent dans l'éducation nationale et où on va pouvoir jouer sur le niveau de tous. Et donc, pour réussir ça, moi, je pense que ce qu'ont fait les Républicains à la fin du 19e siècle, on peut le refaire aujourd'hui, qu'il y a une chose qui fait vibrer à la fois le corps enseignant, qui est quand même un corps de professionnels qui sont tournés vers l'avenir, enfin pour qui la tolérance, le progrès, ça veut dire quelque chose, et une jeunesse qui est passionnée par le vivant et par l'écologie. Et donc il faut canaliser cette énergie en proposant de quoi rentrer toute cette compétence dans l'éducation nationale. Alors j'ai des petites propositions concrètes que je peux donner. La première idée, c'est de faire une école normale supérieure de la transition écologique. Quand on a fait les écoles normales supérieures, elles étaient pensées pour former les enseignants qui iraient dans les écoles normales former tous les autres profs. Eh bien, si on veut que l'écologie soit le pilier de la société en transition, je pense qu'on a une matière grise disponible qu'il faut aller chercher parmi les enfants les plus compétents. Il y a quelques années, des élèves d'AgroParisTech qui ont fait un discours. À leur remise de diplôme, ça a été connu après coup comme le discours d'AgroParisTech, où en gros, ils disaient, écoutez, nous sommes les plus compétents, nous sommes l'élite. Et vous nous proposez soit de travailler pour un système qui nous débecte, bon, le système capitaliste et tous ces enjeux écologiques, soit d'aller faire pousser des fraises en Ardèche. Et on sait très bien qu'en faisant pousser des fraises en Ardèche, on ne changera rien au système. Où est la troisième voie?
Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous voyons plutôt que nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Pour moi, cette école normale supérieure de la transition écologique, où on pourrait mettre tous les grands penseurs de la transition, et il y en a plein en France, et qui aurait du coup pour vocation de former les cadres de l'éducation nationale, elle permettrait de capter, d'apporter une réponse à cette école d'agro-paritech et de capter les plus compétents des grandes écoles françaises et pour les rentrer dans l'éducation nationale, pour avoir toute cette matière grise.
Alors ça, c'est une des pistes que tu formules. Mathieu, je le disais en début d'émission, tu es aussi le président de Picardie Debout. Est-ce qu'on doit considérer que les propositions que tu fais dans son livre sont les propositions éducation de François Ruffin ?
Non, pas du tout. Et même, je pense que ce n'est pas à vocation pour un parti politique, ce que j'ai essayé de faire. J'essaye de le prendre différemment. J'essaye d'ouvrir le champ du débat. Ce que je cherche, c'est de faire en sorte... tout à l'heure, tu disais que j'avais cité Raffarin. J'essaye de faire en sorte que ces idées-là, elles soient formulées d'une façon où, chez les gens, on se dise « c'est du bon sens ». Pourquoi on ne fait pas ça ? Voilà. Et donc, c'est plutôt à destination des gens, plutôt à destination du débat public, qu'on les pique, ces idées, et qu'on les ressorte pour que ça fasse écho. Voilà. C'est plutôt ça que je cherche.
Moi, ça me va, redonner du bon sens à l'idée que l'école doit encore nourrir l'espoir et les vocations dans la jeune génération. C'est un projet qui me va. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Je rappelle ton livre, À la recherche des profs perdus, paru aux éditions de l'Aube, et donc préfacé par Philippe Mérieux et Alain Bentolila. Merci, Mathieu.
Merci beaucoup, Laurence.